Tout de suite, les infos. Tout de suite, les infos.
Informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Abdoul Fattah Tiemtori.
Oméga, bonjour, bienvenue à ce journal dont voici les titres. Attaque de Gaskindé dans le Sahel, il y a eu des complicités malheureuses qui ont livré le convoi aux terroristes, révèle le ministre délégué à la Défense. Le général Silas Keïta assure que des actions sont en cours pour libérer la voie et ravitailler Djibo. En politique, l'ex-parti au pouvoir, le MPP, n'a plus de bureau exécutif. L'organe central du parti s'est auto-dissous hier lors d'une rencontre. Un directoire est annoncé pour l'organisation prochaine d'un congrès. Sanctions de la CEDEAO contre la Guinée. Le Mali se désolidarise et dénonce des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines alors qu'il s'apprête à recevoir aujourd'hui une délégation de l'institution sous-régionale. Et avec notre invité de la rédaction, on parle du traitement de l'information en temps de crise, notamment celle que traverse le Burkina. Le journalisme, on l'exerce au nom de la société, pas au nom d'un pouvoir établi, nous dira le professeur Serge Théophile Balima, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. C'est à suivre à la fin de cette édition. Madame, Monsieur, voici pour les titres. Bienvenue à ce journal. Bonjour, bon réveil à l'écoute de Radio Oméga. Politique pour ouvrir ce journal, le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, n'a plus de bureau exécutif national. L'organe décisionnel central du parti de l'ex-président Roch Kabore a adopté hier une résolution consacrant sa propre dissolution. Selon le journal en ligne Minute.bf, un directoire sera mis en place, annonce des sources de Minute.bf, pour organiser au plus vite un congrès qui devrait consacrer la relance du parti. Ce directoire, à en croire Minute.bf, sera dirigé par l'ex-président Roch Kabore lui-même et son camarade cofondateur du parti, Simon Compaoré. Cela intervient au moment où le parti connaît une saignée des démissions en cascade. La dernière en date était celle de Alpha Barry et de plus de 120 autres membres du bureau national du parti. Attaque de Gaskindé. Le gouvernement déplore des complicités malheureuses qui ont livré le convoi aux hommes sans foi ni loi. Ce sont les propos du ministre délégué chargé de la Défense, le général Silas Keïta, à sa sortie du conseil des ministres hier. Sans donner plus de détails, le ministre a donné rendez-vous à la presse demain vendredi pour en parler. En attendant, il assure que des actions sont en cours pour sécuriser la voie et ravitailler Djibo en vivre. Cette crise sécuritaire est la conséquence d'un mal, un mal à la cohésion sociale, et cela se justifie par de nombreux dossiers entassés dans les tiroirs de l'ex-Haut Conseil pour la Réconciliation et l'Unité Nationale, des dossiers reversés au ministre en charge de la cohésion sociale, Yero Boli, et il en a été question hier au Conseil des ministres. On fait le point avec Charles Daï Ibrahim Niaouné.
Une minute de silence observée à ce Conseil des ministres. Le Burkina a encore été frappé le lundi dernier à Gaskindé. Bilan provisoire, 11 militaires tués, des blessés et une cinquantaine de civils portés disparus. Les populations sont sous le choc. L'inquiétude s'installe dans la hiérarchie militaire qui dénonce une complicité. Silas Keïta, ministre délégué chargé de la Défense nationale.
Ce convoi qui était sous escorte militaire a été attaqué à hauteur de la localité de Guesskindé. Le bilan est sérieux, avec plusieurs pertes en vie humaine sur le plan militaire, des blessés à divers niveaux, plusieurs dégâts matériels importants, très importants. Pour l'instant, nous allons nous taire sur les actions, la nature des actions qui sont en cours, puisque nous sommes en guerre. Mais je voudrais d'ores et déjà dire que cette attaque nous montre qu'il y a eu des complicités malheureuses qui ont livré ces convois à la merci de ces hommes sans foi ni loi. Les actions sont en cours pour que la voie qui mène à Djibo soit dégagée le plus vite, et que la ville de Djibo, qui est aujourd'hui donc privée de ses vivres et de ses articles divers, puisse être ravitaillée le plus vite possible.
C'est une urgence maintenant pour le ministère en charge de la réconciliation nationale de situer les responsabilités sur le fonds documentaire issu des crises sociales. Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement.
Suite à la cession d'activité du HCRUN, les fonds documentaires comprenant l'ensemble des dossiers en instance ont été reversés le 22 juillet 2022 au ministère en charge de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale pour suite de traitement. Parmi ces fonds documentaires, on compte 71 dossiers de pertes en vie humaine, 543 dossiers de blessés, 839 dossiers de destruction de biens individuels, 71 dossiers de destruction de biens de société, 28 679 dossiers de contentieux administratifs et 282 dossiers de contentieux fonciers urbains. Tous ces dossiers, reçus par le ministère en charge de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, seront pris en main pour parachever leur traitement.
Suite à l'attaque du convoi humanitaire en partance pour Djibo, le gouvernement burkinabé compte apporter toute la lumière sur cette affaire le vendredi 30 septembre prochain.
Voilà donc pour le point donc du Conseil des ministres, attaque contre le convoi donc de vivres à Gaskindé. C'était lundi en début de semaine. L'état-major des armées évoquait des dégâts humains et matériels. Sans autre précision, 24 heures après l'attaque du convoi de ravitaillement à destination de Djibo, le gouvernement a établi le bilan suivant. 11 soldats tués, 28 blessés, une cinquantaine de civils disparus. Et Radio Omega a réussi à avoir le témoignage exclusif d'un survivant de l'attaque. Toujours sous le choc, il relate ce qui s'est passé. Ses propos sont traduits du Moré au français par Bernabé Cabri.
C'est aux environs de 10 heures que nous avons quitté Bourzanga pour Djibo. Nous sommes arrivés à Gaskindé vers 14 heures. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais nous avons marqué un arrêt. Les gens en ont profité pour prier. Après la prière, nous avons continué notre chemin. Et c'est là que tout va commencer. Nous n'avons même pas fait 20 mètres. Et c'est là que les tirs ont commencé. Certains chauffeurs n'avaient même pas encore démarré. Et ceux qui étaient déjà dans leur véhicule sont descendus immédiatement. Et les militaires ont dit à tout le monde de se coucher. Je me suis allongé, les tirs continuaient et se rapprochaient de plus en plus. Nous nous sommes levés pour reculer. Et c'est en reculant que nous avons vu un véhicule de l'armée qui a replié. Il nous a même dépassé. Beaucoup de gens ont commencé à courir. Et d'autres militaires disaient aux gens de ne pas courir. Les tirs ne cessaient pas. Au contraire, ils devenaient de plus en plus intenses. Beaucoup de militaires ont replié. Ce sont les civils qui ont pris même les motos conduire jusqu'à Bourzanga. Il y a eu vraiment des dégâts. Parce qu'il y avait plus de 200 camions qui transportaient les vivres. Certains parlent de 205 camions. D'autres disent que c'est 202 camions. Mais les véhicules qui ont pu faire demi-tour et qui sont actuellement à Bourzanga, avec des vivres, c'est une soixantaine. Le reste a été brûlé. Quand les militaires ont dit aux gens de se coucher, beaucoup d'entre eux sont descendus pour faire face à l'ennemi. Mais ils se sont rendus compte que la force de frappe n'était pas la même. Il y a eu un hélicoptère qui est venu. Il a fait juste un tour et est reparti. Un autre hélico est venu et reparti. Et quand les militaires ont replié, les gens aussi ont replié. Certains même ont marché de Gaskindé jusqu'à Bourzanga. Il y a des gens qui sont blessés. On a pu les secourir jusqu'ici. D'autres sont blessés. Ils n'ont pas pu s'en sortir. Sans parler des femmes et des enfants qui ont fui rentrer dans la brousse.
Le convoi attaqué était constitué de plusieurs dizaines de camions de vivres, plus d'une centaine même, qui devraient ravitailler Djibo. Les habitants de la ville n'ont plus rien à se mettre sous la dent, affirme ce rescapé, qui appelle les autorités à agir urgemment pour leur venir en aide.
Dans les jours à venir, il faut que les autorités puissent prendre le problème de Djibo au sérieux. Parce que lorsque nous quittions Djibo le 5 septembre dernier, il n'y avait pas assez de vivres. La population de Djibo comptait sur le convoi qui a été intercepté à Gaskindé. Si ces vivres n'arrivent pas à Djibo, ce sera une catastrophe. À l'heure où je vous parle, il y a des gens qui ont commencé à descendre les vivres pour vendre à Bourzanga. S'ils vendent les vivres à Bourzanga ici, ce n'est pas bien pour les habitants de Djibo.
Au Béga, la suite de ce journal, un suivi des mutuelles sociales pour un mieux-être à des ménages dans l'espace UMOA. L'idée est en réflexion depuis 2009 et le Burkina compte fixer les conditions de reconnaissance juridique, de suivi et de contrôle de ces structures et de leurs fêtières. Tel est l'objectif de la première session du comité technique de la mutuelle sociale, prévue pour durer 3 jours. Les travaux ont débuté ce mercredi à Ouagadougou, compte rendu Rabiatou Congo, avec la voix de Yaya Diomandé.
Cette rencontre de 3 jours participe à la mise en place de l'organe administratif de la mutualité sociale tel que recommandé par l'UMOA en 2009. Cet organe devrait permettre une gestion harmonisée des mutuelles sociales dans chaque pays de l'espace UMOA. Première du genre, au cours de cette session, le comité technique de la mutualité sociale va réfléchir sur les conditions de reconnaissance, de suivi et de contrôle des mutuelles sociales et de leurs fêtières. Carly Zango est le directeur de la protection sociale.
Nous sommes dans la dynamique de mettre en œuvre cet organe. Mais en attendant, nous avons trouvé une solution palliative pour permettre aux mutuelles d'être reconnues et de mener leur activité sur le terrain. Dans l'effectivité du fonctionnement des mutuelles sociales, nous sommes en train de réfléchir pour voir comment est-ce que ces agréments seront donnés, comment est-ce que nous allons identifier les critères d'évaluation des mutuelles sur le terrain afin de pouvoir aller sur le terrain et accompagner les mutuelles.
Avec la mise en place de l'organe administratif de la mutualité sociale, les mutuelles pourront ainsi mobiliser suffisamment de ressources financières pour accompagner les ménages, entre autres, dans la prise en charge de leur couverture sanitaire. Carly Zango.
La prise en charge de la santé crève le budget, les revenus des ménages. Donc, à travers ces réflexions, là, nous voudrons permettre d'avoir des mutuelles qui sont assez fonctionnelles, qui puissent mobiliser suffisamment de ressources.
À ce jour, selon le directeur général de la protection sociale, le Burkina compte environ 181 mutuelles. Les mutuelles ont pour mission d'accompagner les populations en ce qui concerne la couverture santé.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'inclusion financière et à l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises, la coordination de l'unité de gestion du projet a lancé l'édition 2021 du concours de plan d'affaires. Cette compétition a été ouverte aux femmes et aux jeunes des 13 régions du Burkina en vue de leur permettre de profiter des solutions de technologie financière pour surmonter les obstacles entravant leur accès au crédit, en améliorant à la fois l'offre et la demande. La remise des prix aux lauréats a eu lieu mardi dernier, à Ouagadougou. Le point avec Irène Nikiema et Adam Skalero Draogo.
Le projet d'appui à l'inclusion financière et l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises PAIF-PME est une initiative de l'État burkinabé financée par la Banque mondiale. L'objectif global de la compétition des plans d'affaires CPA est d'accroître l'accès aux services financiers numériques et faciliter l'accès au crédit, en particulier pour les agriculteurs, les femmes et les jeunes. Selon la représentante de la Banque mondiale au Burkina Faso, Maïmouna Mbomfam, cette compétition de plans d'affaires a une grande importance dans un pays où l'accès au crédit est très difficile.
Il y a beaucoup de personnes qui sont porteurs de bons projets, structurants, innovants, mais parce qu'ils n'ont pas une surface financière ou parce qu'ils ont du mal à trouver des garanties pour bénéficier des crédits bancaires, voient leur projet échouer. Donc c'est dans ce contexte que ce projet, qui vise entre autres l'inclusion financière et le développement des petites et moyennes entreprises, le PAIF-PME, a vu le jour.
Au terme de cette compétition, 37 lauréats ont été retenus dans les différents domaines de la vie économique. 12 de ces lauréats vont bénéficier d'un appui financier octroyé par l'État à travers une subvention de leur projet. Les 25 autres auront droit à un appui technique du PAIF-PME devant leur permettre de bénéficier de financement des institutions bancaires partenaires. Selon le ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective, ce concours a non seulement une importance pour les lauréats, mais aussi pour l'ensemble du pays. C'est Glaro Abel Sommé, ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective.
Le fait d'encourager l'émergence d'entreprises, surtout dans des domaines comme la transformation de nos produits, participe fondamentalement du développement économique national. Parce que c'est par l'entreprise que nous arrivons à trouver des emplois pour les populations, à distribuer des revenus, donc finalement à créer de la richesse. Et c'est de cette manière-là qu'une nation arrive à émerger.
Les lauréats se réjouissent de cet accompagnement du projet d'appui à l'inclusion financière et à l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Ce sont au total 8 entreprises créées sous forme de sociétés, coopératives ou entreprises individuelles qui recevront leur récompense au titre de l'édition 2021. Les subventions octroyées vont de 11 494 000 à 37 millions de francs CFA, soit un montant global de financement d'environ 300 millions de francs CFA.
Éducation à présent, l'école supérieure polytechnique de Kaya devient l'université privée catholique Saint-Joseph avec des innovations à compter de la rentrée 2022-2023. L'annonce a été faite ce mercredi au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou. Plus de précisions ici avec Valérie Guéret.
L'école supérieure polytechnique de Kaya a reçu son autorisation de mutation. Elle porte désormais le nom de l'université privée catholique Saint-Joseph à compter de cette rentrée. Les parents ont déjà reçu des correspondances concernant les différentes mutations. Pour cette année, 2 autres filières s'ajoutent. Docteur Abbé Grégoire Banaba, directeur général de l'UCSJ.
C'est depuis plus de 2 ans que nous travaillons à cette mutation. Je peux déjà dire que cette mutation coïncide avec l'ouverture des cycles de master donc dans notre établissement. Et bien sûr, étant devenue université, nous avons l'obligation d'ouvrir même la recherche après le doctorat.
Au cours de cette conférence de presse, des questions sur la situation sécuritaire ont été soulevées par la presse étant donné que la ville de Kaya abrite le plus grand nombre de déplacés internes. Aussi celle de l'insertion professionnelle et l'accréditation des diplômes. Pour la question sécuritaire, l'université privée catholique Saint-Joseph rassure les formés que toutes les dispositions ont été prises. Quant à l'accréditation des diplômes et l'insertion des formés, le recteur dit être sur une bonne voie. Professeur François de Charles Ouédraogo.
Au niveau de tout établissement, école ou université reconnue par l'État, nous avons une autorisation de création depuis 2006 et une mutation reconnu par l'État, reconnu automatiquement par le CAMIS. Et il ne s'agit pas de former seulement, il faut former l'étudiant à avoir son diplôme et également à avoir des qualités de professionnel.
L'université privée catholique Saint-Joseph est située à Kaya. Elle se donne pour mission d'assurer aux futurs cadres africains une formation complète qui répond aux exigences des recruteurs.
Et puis la Fondation Ebomaf a octroyé un chèque de 57 millions de francs CFA et des kits scolaires à près de 1500 élèves en situation difficile, parmi lesquels des orphelins. Cette aide vise à contribuer à la prise en charge scolaire des jeunes filles et garçons dont l'âge est compris entre 6 et 22 ans. La remise symbolique du chèque et des kits est intervenue ce mercredi au cours d'une cérémonie au siège de la Fondation. Le compte-rendu est de Abdulaziz Zoulabou et Moumouni Tamboura.
Cette cérémonie a été placée sous le thème « L'accès à l'éducation pour tous, gage d'une société viable et plus solidaire ». Dans la poursuite de cet objectif, la Fondation a offert des kits scolaires à plus de 500 élèves démunis et une enveloppe financière de 57 500 000 francs CFA pour la scolarisation de près d'un millier d'élèves et écoliers. Ces bénéficiaires sont issus de structures sociales des villes de Dédougou, Koudougou, Kaya et Ouagadougou. Cette marque de solidarité est saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires conscients de son utilité. Rasmata Yelimou, élève en classe de 5e et pensionnaire de l'association Manegnoma pour l'orphelinat.
Après cette journée, je suis toute joyeuse parce que je suis sûre que je vais aller à l'école avec de meilleures conditions, avec une sécurité assurée. Et puis aussi, j'aimerais beaucoup remercier la Fondation Ebomaf.
La Fondation Ebomaf, qui est le bras social du groupe Ebomaf, entend apporter sa pierre pour le bien-être de l'enfant et surtout l'épanouissement de la jeunesse dans ces périodes de crise sécuritaire difficile. Salimata Bonkungu, directrice de la Fondation Ebomaf.
Alors nous savons que un bon nombre d'enfants sont déscolarisés. Avec la situation actuelle, il y a énormément de déplacés. Donc nous avons eu à visiter plusieurs enfants qui étaient vraiment dans des situations très précaires. Et c'est le côté humain, le côté très philanthrope du PDG, le premier responsable de la structure qui nous a poussé à financer ces enfants, les aider, les appuyer et les soutenir.
Ce don annonce une série d'activités en faveur des populations vulnérables dans le cadre des activités de la Fondation. Il est prévu la distribution de 5 tonnes de vivres et de condiments à des personnes dans le besoin. Le centre hospitalier régional de Dédougou recevra également du matériel médical en vue de renforcer une prise en charge efficace des patients. La Fondation Ebomaf a été créée en 2019 et œuvre principalement dans le domaine de la santé et le social.
Omega, l'actualité internationale. Le Mali se désolidarise des sanctions prises par la CEDEAO le 22 septembre dernier contre la Guinée. Le gouvernement malien se dit outré par les sanctions et dénonce des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines qui impactent négativement la vie des populations guinéennes. Il annonce dans la foulée des mesures pour assister la Guinée. Un communiqué du gouvernement rendu public à la veille de la visite d'une délégation de l'institution sous-régionale à Bamako. Les chefs d'État du Togo, du Ghana et de la Gambie se rendent au Mali ce jeudi après un report de 2 jours à la demande du gouvernement malien. Une mission de médiation pour négocier la libération notamment des 46 soldats ivoiriens encore détenus au Mali.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Notre invité du jour est Dr Eddy Guipier. Dr Eddy Guipier est chercheur ivoirien en sciences politiques. Avec lui, il est question de l'évolution de la menace terroriste vers les pays du Golfe de Guinée. Interrogé par nous-mêmes, Abdoul Fattah Tiamtouré, il explique la résilience de la Côte d'Ivoire face à la menace des groupes terroristes présents à ses frontières. Il aborde également la question de la coopération militaire transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Entretien. Docteur Eddy Guipier, bonjour.
Bonjour, monsieur Tiamtouré.
Votre pays, la Côte d'Ivoire, est frontalier avec le Mali et le Burkina, fortement impacté par le terrorisme, avec des groupes armés qui visent désormais les pays côtiers. Comment la Côte d'Ivoire fait-elle face à cette progression?
La conflictualité terroriste se déplace depuis quelques années, depuis son foyer sahélien, vers les zones des mers chaudes du Golfe de Guinée. Et la Côte d'Ivoire, qui appartient à cet espace du Golfe de Guinée, s'en trouve bien entendu impactée. Sa réponse, bien entendu, a été une réponse à chaud et donc une réponse strictement militaire. La carte sécuritaire militaire du pays en a été remaniée avec la création d'une zone opérationnelle nord. Cette dernière est fragmentée en une zone, du moins un secteur nord-ouest, avec pour base la ville de Bundiali et un secteur nord-est avec pour base la ville de Kong. Tout cela pour se rapprocher au mieux de cette conflictualité frontalière et transfrontalière pour répondre au mieux à la menace militaire. Bien entendu, ceci ne peut se faire sans une réforme aussi du dispositif législatif et réglementaire qui a été amendé à cet effet.
Il y a eu quand même Grand Bassam, Kafolo également, mais globalement la Côte d'Ivoire semble plus résiliente que d'autres pays de la région, tels que le Bénin et le Togo. Quelle est la recette?
Le secret de la Côte d'Ivoire, si le secret il y a, se résiderait dans, on va dire, le panel de réponse que la Côte d'Ivoire met en exergue. J'ai tout à l'heure évoqué la question de la riposte militaro-centrée, mais la riposte militaire, bien qu'étant nécessaire, elle s'avère insuffisante. Les autorités ont pris la pleine mesure de ce problème-là en essayant de coller au plus près de cette conflictualité, comme je l'ai dit auparavant, en développant, n'est-ce pas, des programmes économiques et sociaux pour soulager les populations victimes de cette conflictualité terroriste-là. Vous n'êtes pas sans savoir que les terroristes, dans leur offre pour recruter, arrivaient à donner, n'est-ce pas, des sommes d'argent ou acheter des motos pour les populations. Il faut savoir que le terrorisme prospère là où il y a peu d'État. Et cette réponse avec le plan, le PSGouv 2, le plan social du gouvernement 2, arrive justement pour essayer de pallier à cet effet. Donc c'est cette palette-là qui associe réponse militaire et réponse sociale et économique qui arrive, en tout cas à notre humble avis, à essayer de fixer cette menace terroriste-là pour l'endiguer, faire en sorte en tout cas, à tout le moins, qu'elle ne prospère plus.
La Côte d'Ivoire a organisé l'année dernière une opération conjointe d'envergure avec le Burkina dans la zone frontalière avec quelques résultats. Et depuis, plus rien. Comment appréciez-vous la coopération justement sur le plan militaire entre les deux pays?
Entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont au beau fixe. Elles n'ont pas été amoindries par, on va dire, l'immixion des militaires dans le champ et le jeu politique avec la junte actuellement au pouvoir. Les deux pays continuent à collaborer, échangent des informations précises et capitales quant aux groupes armés terroristes. Et comme vous l'avez dit vous-même, ça ne les empêche pas de planifier et de mettre en œuvre des opérations d'envergure. Alors,
ce journal se referme ici. Il a été mis en onde par Fidèle Compaoré. Présentation Abdou Fattah Tiamtouré. Plaisir de vous avoir servi. L'info continue sur Radio Omega. Excellente journée en compagnie de nos programmes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.
Radio Omega, l'info en direct.
Et tout de suite, les infos.